aux attitudes, et je reviendrai sur cette question des attitudes. Alors en effet, cette enquête, c'est à la fois un sondage qui a été commandé par la Fondation Gabriel Péri à la Sofres, donc il y a toutes les caractéristiques d'un sondage. Il s'agit d'un sondage par téléphone qui a été réalisé auprès de 1500 personnes, donc c'est-à-dire un échantillon trié sur quota, qui veut être représentatif de la population française sur la base de critères de sexe, de CSP, etc. Donc voilà. Mais on le sait aujourd'hui, ces sondages, et ils sont souvent critiqués, ces sondages qui sont un des instruments de cette recherche, un élément très important, puisque c'est à partir de là que tout le travail va commencer. Eh bien, ces sondages connaissent aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Je ne suis pas un professionnel de cette profession-là, mais j'en suis averti. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, les sondages téléphoniques ont du mal à trouver leurs répondants. Il y a une minorité de gens qui sont sollicités et qui répondent. Et toutes les catégories de sondages, quelles que soient les méthodes employées, c'est-à-dire celles qui reposent sur le face-à-face, l'enquêteur qui va à domicile d'une personne à partir d'un échantillon constitué, beaucoup de difficultés à trouver certaines catégories, avec la montée des sentiments sécuritaires, la difficulté à se faire ouvrir, voilà, et particulièrement par exemple dans les quartiers bronzants. Donc il est difficile d'atteindre les gens par le face-à-face, il est difficile de les atteindre par les quotas, en raison évidemment de ces refus de réponse et aussi de la difficulté qui fait qu'il est difficile d'atteindre à partir de téléphones fixes une population jeune par exemple. Ce sont surtout les portables qui sont aujourd'hui utilisés. Et on a pensé trouver une solution économique plus facile qui permette de travailler avec de grands échantillons avec les sondages en ligne, mais les sondages en ligne aussi ont leurs défauts, et par exemple la répétition des interrogations auprès d'une même population, d'un même panel de population interrogée, aboutit à des réponses qui sont parfois différentes de ce que seraient les réponses de personnes qui seraient interrogées pour la première fois. Donc aucune méthode n'est impeccable. Et les sondages souffrent de beaucoup de travers. On pense que les remplacer peut-être à terme par cette analyse des big data, mais ça c'est un horizon relativement lointain, et c'est dans cette perspective que beaucoup s'engagent avec frénésie et sans être certains des résultats qui seront obtenus. Donc voilà, je dis un peu les choses, c'est-à-dire il s'agit d'une enquête effectivement réalisé par téléphone, un sondage, mais un sondage, Michel le disait tout à l'heure, qui s'inscrit comme un élément particulier dans une séquence de 50 ans, faisait-il observer, plus de 40 ans, avec des enquêtes répétées et qui, pour l'essentiel, utilisent la même méthodologie et reprennent le plus de questions possible. Donc nous, par rapport à l'enquête de 2010, Guy Michel et moi-même, nous avons repris plus des trois quarts des questions posées en 2010. Et vous voyez, l'intérêt, c'est qu'on a cette profondeur de champ, on a cette possibilité de comparer les résultats, non pas entre un sondage Sofres et un sondage pour le journal du dimanche et un sondage pour Paris Match fait par notre institut, mais le même sondage fait par le même institut avec la même méthode à des dates différentes. Et donc là, on a effectivement un élément qui est un élément extrêmement précieux et rare. Voilà. Alors, je vais entrer directement dans la présentation de cela. Donc, après vous avoir précisé ce dont il s'agit, il n'y a pas de résultats spectaculaires qui apparaissent à première vue. C'est-à-dire, dans une enquête qui est une enquête fouillée de ce type, il faut le temps du travail, il faut le temps de la réflexion. Moi, le temps que j'ai eu pour exploiter cela, vous l'avez compris, il a été assez bref. C'est pas un survol superficiel, mais c'est pas non plus une étude qui prend des mois et qui permet évidemment de mettre en évidence ce que nous recherchons avant tout dans ce travail, c'est-à-dire les systèmes d'attitude, comme vous le voyez, indiqués, de représentation et de valeur, qui, associés au comportement politique, permettent d'en interpréter le sens et d'en comprendre les transformations. C'est ce que Guy et Michel avaient bien indiqué et synthétisé dans cet ouvrage qui a résulté de l'enquête de 2010 et qu'ils ont publié donc en 2012, Le peuple, la crise et la politique. Il faut savoir que Michel et Simon ont publié d'autres classiques, et notamment Les ouvriers et la politique. Il y a donc toujours cette attention pointée sur le comportement des catégories sociales et des attitudes qui, associées à leur comportement politique permettent d'en comprendre le sens. Voilà. Donc ma présentation consistera en trois parties. La première est déjà bien engagée, c'était cette présentation de l'enquête. La seconde, c'est un peu les constats généraux qui peuvent en résulter. La troisième détaillera des résultats plus précis, plus détaillés sur un certain nombre de thématiques qui sont celles de ce rapport. Alors, donc maintenant, en ce qui concerne ces données générales, ces grandes tendances, je vais vous en faire part sous une forme relativement ramassée et synthétique. Ces grandes tendances sont les suivantes. D'abord, dans un contexte économique et social préoccupant, les inquiétudes se portent sur la persistance ou l'aggravation d'un chômage de masse, la stagnation ou la réduction du pouvoir d'achat, les menaces qui pèsent sur les retraites, l'échec des politiques gouvernementales dans ces domaines, échec qui contribue à expliquer l'impopularité particulière, exceptionnelle de l'exécutif, conduit à un certain regain de faveur des thématiques libérales, dont la popularité avait chuté au lendemain de la crise de 2008. Donc on avait assisté dans l'enquête de 2010, qui se situait avant l'élection présidentielle de 2012, et dans le moment des effets de la crise financière de 2008, la crise des banques printanées, on avait assisté en quelque sorte à des formes de rejet de l'idéologie libérale. Et là, on s'aperçoit qu'il y a en effet aujourd'hui une sorte de ressac, il y a un regain de cette idéologie libérale après l'élection présidentielle, et qui se marque par le fait que des notions comme celle de bourse, de profit, de capitalisme, de libéralisme, eh bien, que nous pouvons étudier avec une échelle d'attitude, j'expliquerai ce que sont les échelles d'attitude, on voit qu'il y a un progrès qui s'est manifesté par rapport à ces notions. Mais en même temps, on ne saurait titrer les Français, ou comme on dit aujourd'hui, parce que quand on parle des personnes interrogées, on dit les Français en général, les Français adhèrent au libéralisme. Il y a là, en effet, un regain après 2008 qui avait secoué un peu les choses, et où la bourse, le capitalisme, le profit étaient moins populaires qu'auparavant. Il y a là, en effet, un degré d'adhésion qui est un peu plus élevé, une sorte de retour. Mais globalement, on peut dire qu'on est dans le même cycle. Il y a pourtant deux éléments fondamentaux qui se sont produits par rapport à l'enquête de 2010, dont l'élection présidentielle de 2012, et la persistance en définitive des effets économiques de cette crise. Et par rapport à cela, on peut dire que fondamentalement, la situation n'est guère changée du point de vue des représentations qu'ont les personnes interrogées de la situation économique et sociale. En ce qui concerne les solutions, en ce qui concerne le libéralisme lui-même, il y a une certaine faveur qui gagne, particulièrement chez les jeunes et dans différentes catégories sociales, y compris d'ailleurs dans le monde ouvrier. Donc on est à peu près dans le même cycle. En fait, ce qui s'est passé en 2012 n'a pas changé les choses. Il y a encore, en quelque sorte, eu une mobilisation un peu antique, anti-libérale, et ensuite il y a cette retombée avec un regain de l'adhésion au thème libéral. Deuxième point général, après je développerai en détail les choses, la confiance dans les partis politiques, de droite comme de gauche, et dans les responsables politiques est en crise. Alors ça n'est pas nouveau, mais c'est une crise pérenne, c'est une crise grave, et surtout la représentation du personnel politique, des élus et des responsables politiques, c'est une représentation de gens qui sont indifférents au sort des personnes comme vous, comme on dit dans le questionnement de l'enquête. Et une très grande majorité, plus nombreuse qu'en 2010, plus qu'il y a 5 ans donc, et qui s'étend à ceux qui disent une proximité en même temps avec les partis de gouvernement, qui disent qu'ils sont proches du PS ou de l'UMP par exemple. Eh bien, même chez eux, il y a une progression de cette défiance à l'égard des partis et à l'égard du personnel politique. PS et UMP, les Républicains, sont isolés, d'autre part, par la défection pour le Parti Socialiste du soutien
apportée par, sur sa gauche. Là, il y a une coupure qui apparaît profonde avec toute une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2012, pour les proches du Front de Gauche. Mais il y a également à l'UMP un phénomène, à l'UMP des Républicains, bon, je dirais par facilité UMP, vous entendrez qu'il s'agit des UMP rebaptisés les Républicains. Donc, à l'UMP aussi, il y a celle d'une partie des électeurs, Front National, qui hésite entre le Front National et Sarkozy, et ont voté Sarkozy au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2012. Donc, il y a en quelque sorte un isolement des partis de gouvernement, et en même temps, il y a ces divisions qui existent à l'intérieur même de chaque camp, et qui, par exemple, fait qu'il y a une différence véritable entre, je reviendrai sur plusieurs thèmes, entre l'UDI et l'UMP et les Républicains. Voilà. Alors, troisième point, la défaveur qui est rencontrée par le PS et l'UMP ouvre un boulevard au Front National. L'adhésion déclarée aux idées du Front National, qui est d'un quart en moyenne, hein, des personnes interrogées, elle est un tiers chez les plus jeunes. C'est ça qui constitue vraisemblablement une source de préoccupation, d'interrogation, comme on voudra, pour les plus jeunes, les moins de 24 ans, les 18-24 ans, là, la proportion d'adhésion aux idées du Front National est d'un tiers. Elle est d'un tiers également chez les ouvriers. Alors, il y a toute une base pour cela, pour expliquer cela. La conviction très répandue que les politiques européennes, hein, on pose la question, constituent en quelque sorte une des causes importantes des difficultés rencontrées. La peur d'une perte de l'identité nationale, d'une progression, la progression d'un sentiment d'insécurité et de violence, une augmentation du nombre des étrangers, tout ça nourrit un ancrage du Front National dans un large secteur de l'opinion. Alors, il y a une échelle d'attitude de xéno-autoritarisme que je présenterai, qui est construite à partir des réponses à des questions sur le rétablissement de la peine de mort, sur le rôle de l'école, sur l'inquiétude à propos de l'augmentation du nombre des étrangers, sur l'immigration et sur l'insécurité. Elle montre bien la spécificité de tout un secteur de l'opinion par rapport aux autres. Les trois quarts se classent parmi les notes élevées de cette échelle. C'est-à-dire que parmi les proches du Front National, ces thématiques sont des thématiques extrêmement mobilisatrices, et que la mobilisation sur ces enjeux différencie ces proches du Front National de la grande partie de la population, par le caractère exacerbé des préoccupations qu'ils affichent. Donc, on a trois quarts, disais-je, se classent parmi les notes élevées de cette échelle, contre un tiers en moyenne. Sur une échelle en même temps de rejet du système politique, qui a été construite avec les questions portant sur le fonctionnement de la démocratie, sur les préoccupations des responsables politiques, ce que je disais tout à l'heure, qu'ils se préoccupent très peu des gens comme vous, confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour gouverner le pays, les proches de l'extrême droite se singularisent également par une proportion beaucoup plus grande de notes très élevées. En revanche, c'est ça qui fait la particularité, en quelque sorte, de ce secteur, sur les notes de libéralisme économique. C'est une échelle constituée à partir du profit, à partir du capitalisme, à partir de la bourse, etc., à partir des réponses à ces questions-là, ils sont très nettement distancés sur cette notion de libéralisme économique par l'UMP, par les proches de l'UMP. Et on peut dire que en matière économique, le cœur fort de la droite est du libéralisme, pardon, est dans la droite dite républicaine depuis 15 jours. En fait, le fait qu'un quart des sympathisants frontistes viennent de la gauche, enfin, c'est ce qu'ils déclarent, hein, un quart de ces sympathisants viennent de la gauche, n'est pas pour rien dans cette diversité des choix, notamment dans cette différenciation par rapport à l'UMP et à l'UDI sur les questions économiques et sociales. Une question stratégique tend cependant à isoler le Front National, c'est son option qui consiste à sortir de l'euro et à rétablir le fonds. Et ça, c'est, on a demandé si c'était réalisable ou pas, et là, cette politique-là, cette stratégie-là, elle est jugée irréalisable par une très grande majorité des répondants, et même par un tiers des proches du Front National. Donc il n'y a que les deux tiers des proches du Front National qui trouvent que la stratégie Marine Le Pen et Trump, qui consiste à sortir de l'euro, est réalisable. Autre point, des classes populaires désorientées. Voilà ce qui ressort assez nettement de cette enquête. Donc, contrairement à la vulgate qui est fréquemment réitérée, vous savez ce qu'on entend toujours, les ouvriers et employés seraient maintenant majoritairement sous l'emprise du Front National. On entend cela, les ouvriers. Voilà, les ouvriers sont devenus frontistes aujourd'hui, c'est le parti des ouvriers, etc. En effet, ils trouvent dans ces catégories populaires une assise importante. 16% des ouvriers, 11% des employés, contre 9% en moyenne. Alors, ce n'est pas un chiffre exact des soutiens qui sont apportés au Front National. Mais ce qui est intéressant, c'est la différence, la majoration qui existe par rapport à la population générale. Chez les ouvriers, 16% des gens disent qu'ils sont proches du Front National. Mais pour 9% en moyenne qui l'indiquent. Alors que nous savons bien que les résultats sont beaucoup plus élevés. Dans la réalité, ce qui est intéressant, ce sont donc ces écarts-là. Et voilà. Donc, il y a une assise importante dans ces catégories populaires. Elle est à égalité dans ce qui est déclaré par les gens interrogés avec le Parti Socialiste pour les ouvriers, un peu moins que pour le Parti Socialiste chez les employés. Bon. Il y a en même temps, si vous voulez, une augmentation de ce qui était, quand on compare à 2010, une augmentation de l'indication d'un vote d'une sympathie à l'égard du Front National. Mais on sait qu'il y a maintenant l'indication du vote à la présidentielle, il y a toujours une minoration dans les enquêtes de ce vote. Le vote Front National n'est pas encore un vote qui est admis, qui est légitime, qui est avouable. Mais il est de plus en plus. Donc, il y a deux mouvements à apprécier. Un mouvement qui consiste à se rendre compte que ce vote est maintenant un vote plus légitime qu'auparavant, mais qu'il reste quand même, pour une grande partie des gens, un vote non avouable. Donc, dans cette sous-déclaration générale de ce vote, c'est chez les ouvriers qu'il reste le plus élevé. Une autre façon de s'approcher de ce phénomène, c'est de demander l'accord avec les idées du Front National. C'est beaucoup moins engageant, ça n'est pas restituer un acte concret tel que le vote, ou indiquer un positionnement sur l'échelle politique par rapport à d'autres partis, donc de façon moins engageante, les idées du Front National. Et là on voit aussi qu'il y a un plus large accord dans les catégories populaires avec ces idées du Front National. Donc il existe bien une base pour qu'une partie des catégories populaires s'identifie de manière durable au Front National. Une partie, pas la majorité, parce que pour la majorité, c'est le rejet de la politique institutionnelle, c'est le ni gauche ni droite, c'est l'abstention qui caractérise le mieux les dispositions des catégories populaires aujourd'hui. De ce constat, on avait cru à la veille de l'élection présidentielle, je ne sais pas si vous en souvenez, de 2012, l'association Terra Nova avait publié un document dans lequel indiquait que maintenant la gauche devait s'écarter de ces catégories populaires parce que elle-même, ces catégories adhéraient à des valeurs réactionnaires. Qu'elles étaient sur le plan du racisme, de l'autoritarisme, etc. Elles s'éloignaient de la gauche par cette absence de permissivité. Et que donc la gauche, maintenant, se devait être tout un amalgame de catégories, en quelque sorte, les catégories éduquées, les cadres, les gens qui ont fait des études, mais aussi les entrepreneurs politiques de banlieue, les associatifs, etc. Donc il y avait une sorte d'amalgame se regroupant d'ailleurs, mais qui laissait profiter les catégories populaires. Et là, c'est quand même une indication qui est sous-jacente en permanence. Étant donné cette adhésion relativement large, d'un quart, d'un tiers de ces catégories aux idées du Front National, il y a en permanence cette idée que c'est le Front National qui les représente et que la gauche n'a rien à faire, ou pas grand-chose à faire, ou plus grand-chose à faire avec ces catégories. Et bien là, je pense que c'est un risque à partir de cette analyse relativement dangereux d'abandonner ces classes populaires à leur penchant réactionnaire pour refonder la gauche autour d'un amalgame composite. La question pour les partis politiques de gauche, c'est bien sûr de trouver les moyens de répondre à cette désorientation qui est profonde, qui est réelle, et aux angoisses des milieux populaires dont on peut prendre un peu la mesure. Et voilà, je... voyons cela. Voilà, donc là, vous savez, ces fameuses échelles d'attitude qui permettent, alors les échelles d'attitude, elles, je reviens un tout petit peu en arrière, voilà une définition. Voilà. Voilà ce que sont ces fameuses échelles d'attitude dont j'ai déjà parlé. C'est toujours d'après nos auteurs, Michel Simon, quelque chose qui vous est présenté. Hein, la construction d'échelles d'attitude, elle répond au souci de synthétiser, pas de prendre les questions une par une, de synthétiser dans une enquête par questionnaire l'information fournie par les réponses à plusieurs questions. Elle repose sur l'hypothèse que ces réponses constituent, au-delà de leur signification littérale, des symptômes des attitudes à forte teneur affective sous-jacente aux représentations conduites. Et donc, c'est cette idée que derrière le positionnement indiqué en réponse à une question, il y a bien des attitudes sous-jacentes que l'analyse hiérarchique permet de vérifier. C'est-à-dire qu'en fait, une échelle d'étude n'est pas constituée avec des questions que le sociologue ou le psychosociologue choisit de mettre ensemble, mais c'est les résultats de l'enquête qui permettent de dire quelles sont les réponses aux questions qui font en quelque sorte système, qui sont cohérentes et qui décrivent une attitude dont les comportements verbaux ne constituent que des indices. Alors maintenant, je vais en revenir à cette échelle d'attitude que je voulais vous montrer. Voilà. Alors nous avons une échelle d'attitude donc qui s'appelle Échauffeur, mais qui en fait est une échelle de xéno-autoritarisme, qui est constituée à partir de questions sur le rapport aux étrangers, à l'immigration, etc. Et en même temps, l'autorité. Est-ce que l'école doit d'abord faire de la discipline ou éveiller l'esprit critique des gens? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il faut plutôt des chefs et de la discipline ou plus de participation, etc. Donc, c'est une échelle qui assemble ces réponses parce que ces réponses correspondent à la même dimension. En définitive, dans la personnalité autoritaire, il y a aussi cette dimension de xénophobie qui est voisine. Voilà, il y a une échelle sur les modalités d'action. Nous avons proposé plusieurs modalités d'action, grève, occupation, manifestation. Il y a une échelle de rejet du système politique, c'est-à-dire, l'attitude à l'égard de la démocratie ne fonctionne pas bien, les hommes politiques ne se préoccupent pas des gens comme nous, etc. Donc, ni la droite ni la gauche ne pourront véritablement gouverner, changer la situation du pays. Il y a une échelle de libéralisme économique, alors profit, bourse, libéralisme, capitalisme, et une échelle qui porte sur les inquiétudes. Hein, quelles inquiétudes pour l'avenir, voilà. Quoi avons-nous peur, l'échelle. Alors on regarde ces différentes catégories, je pense que c'est visible par. Est-ce que même vous voyez, quand vous êtes un peu loin de l'écran, est-ce que vous arrivez à voir ce tableau? Bon, très bien. Ben, c'est parfait. Alors voilà, les catégories d'employés et d'ouvriers, vous les voyez. J'ai indiqué en rouge, sur cette échelle de xéno-autoritarisme, la réponse des employés et des ouvriers. Vous voyez qu'elle est une note d'échelle élevée sur cette dimension, sont nettement supérieures chez les ouvriers et employés, bien sûr aussi chez les agriculteurs, qu'elles ne le sont en moyenne, 39 en moyenne, et là nous avons 51-49. Prenons l'échelle de rejet du système politique. Vous voyez, elle est de 46 en moyenne, elle est plus élevée aussi dans les catégories populaires et les inquiétudes également. Hein, je ne vais pas m'attarder, mais voilà. J'en viens maintenant donc à mon dernier mais long point qui porte sur la présentation des résultats détaillés. Alors voilà. J'espère que ce ne sera pas trop fastidieux, mais je vais égrener les différents résultats que nous pouvons. Ça comporte une dimension descriptive que je regrette, qui est moins synthétique que ce que je vous ai dit auparavant, mais qui en même temps permet une information précise. Alors, l'appréciation de la situation personnelle et de son évolution depuis 5 ans. 5 ans, c'est donc l'enquête de 2010. Donc, vous voyez, les trois quarts des ouvriers et des employés ont l'impression qu'ils vivent moins bien aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et cette appréciation est majoritaire dans toutes les tranches de revenus, parmi les plus modestes, naturellement, plus que parmi les plus élevés, mais parmi les plus élevés aussi. Près des trois quarts de ceux qui sont de cet avis indiquent aussi qu'ils se demandent chaque mois comment ils vont faire pour tout payer et la crainte de voir à l'avenir baisser leur pouvoir d'achat est quasi unanime. C'est un point de vue très négatif qui prévaut ici, comme dans de très nombreuses enquêtes, mais un point de vue qui n'a guère varié depuis 5 ans. car sur tout un ensemble de questions, c'est pour ça que je m'autorise à vous dire qu'on était un peu dans le même cycle, eh bien, il y a beaucoup de réponses qui sont des réponses semblables. Voilà, donc vous avez là le tableau qui dit la même chose, je vais passer assez vite, vous voyez que en 2010, 71% disaient qu'ils vivaient moins bien, et je crains de ne pas savoir. C'est pour ça que je vais dire 71-72, je suis vraiment désolé. Oh, mais vous êtes géniaux. Et pourtant, personne n'a répondu comme Michel a demandé. S'il y avait des savants à la matière.
Ben oui.
Trop de modestie.
Allez, que quelqu'un ose venir ici.
Non, mais
parfait.
Bon.
Tu y arrives, tu y arrives.
Est-ce que vous voyez? Vous voyez? C'est parfait. Non, non, mais la distance. Pilotage fantastique. Merci. Alors, ensuite. Donc, vous voyez, là, c'est parfait. Ça n'a pas beaucoup changé. Je vais passer un peu vite. Alors, la crainte du chômage dans les mois à venir, donc c'est une crainte qui est à la fois pour soi ou pour quelqu'un de son foyer. Bon, elle est partagée par 58% des personnes interrogées. C'est une crainte qui est majoritaire dans toutes les tranches d'âge, sauf les plus âgés, évidemment. Hein. Les plus âgés n'étant concernés qu'indirectement. Elle est évidemment aussi moins, mais peut-être que là, je vais revenir, vous voyez, à un peu plus, aux 58%, pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. C'est bon là, hein? Non? Merci de ce PowerPoint participatif. Alors, crainte pour soi. Donc voilà, toutes les tranches d'âge, sauf les plus âgés, les salariés du public, moins parmi ceux du privé, bon, on comprend, chez les ouvriers, plus que chez les gars, voilà. Donc on est là dans des grandes évidences sociologiques sur lesquelles je vais passer, mais ce qui est à retenir, c'est le fait que cette crainte, elle est majoritaire dans l'opinion, dans toutes les catégories. Et donc là, je reviens aux 60%. J'ai retenu la leçon. Alors, voilà. Vous voyez, total de risque.
Ah, voilà, involontaire.
Ingénieur, voilà. Alors. Mais oui, mais... Ah, mais formidable, vous savez, on avait demandé. Merci beaucoup, merci infiniment. Voilà. Voilà, donc cette crainte du chômage, elle est persistante dans toutes les catégories, mais en même temps, on voit que par rapport à 2010, c'est-à-dire par rapport au lendemain de la crise financière, cette crainte, en même temps, était un peu réduite, même si elle se trouve à un niveau élevé quand on le compare aux autres sondages. On retrouve en gros le niveau de 2001 ou de 98. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de... Quand les réponses varient par rapport à l'enquête immédiatement précédente, elles tendent à s'approcher, je ne sais pas si tu l'as compris aussi, des réponses apportées en 98. Alors, on va essayer de s'interroger pourquoi. La même chose en courbe, je ne sais pas si... Voilà. Beaucoup de risques étant donc en bleu, j'espère que ça se voit, non, ça doit se voir. On voit, il y a beaucoup de risques pour ce chômage, c'est en bleu, et on voit qu'on a un peu de recul par rapport à 2010, mais évidemment on est au-dessus de l'enquête immédiatement précédente. Ça serait bien que je vous donne la base des années. Les voilà.
Oui. Un peu vite.
J'ai compris que j'étais un champion pour... Voilà. Ça va, on voit là?
Oui.
Un petit peu. Bon.
Vous voyez?
Bon. Le sentiment d'appartenance à une classe sociale. Alors, la question est compliquée parce que qu'est-ce qu'on entend par classe? Hein, voilà. Le sens donné à la notion de classe varie beaucoup selon les mondes sociaux. La formation ou bien l'orientation politique. La classe sociale subjective, c'est-à-dire celle qu'expriment les gens. À quelle classe sociale avez-vous le sentiment d'appartenir? Elle se distingue de la classe sociale objective. À quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous? Et la catégorie socio-professionnelle est un mode encore imparfait, tout à fait imparfait, d'approcher la classe sociale objective. Mais la classe sociale subjective est très importante justement dans les systèmes de représentation et dans cette approche par les échelles. Donc, les gens peuvent se situer dans l'espace social. Et les réponses se partagent sans grand changement. Ce sont toujours les classes moyennes qui viennent en tête. Alors, qu'est-ce qu'on entend par classe moyenne ? 58% des gens répondent les classes moyennes. Puis, très loin derrière, classe ouvrière, les ouvriers, 9% seulement. Et parmi ceux dont la catégorie socio-professionnelle est ouvrière, eh bien, il y en a seulement un quart qui ressentent un sentiment d'appartenance à la classe ouvrière et 40% aux classes moyennes. C'est la plus faible de toutes les catégories socio-professionnelles à dire classe moyenne, mais quand même, 40% classe moyenne chez les ouvriers, 24% ouvriers. Et notre travail continuera à voir ce qu'il en est avec la multiplication des attributs ouvriers, c'est-à-dire d'appartenir à ce monde par l'origine, la profession du père, et par la situation du conjoint, la situation professionnelle du conjoint. Donc vous voyez, c'est comme en 2010. Ça n'a pas bougé, on peut, voilà. Quelles sont les visions de la société ? Alors ça, c'est un intitulé qui est assez englobant, et qui regroupe un ensemble de questions qui portent sur la vision de l'avenir, le rôle de l'école, les responsabilités de l'Union européenne dans les difficultés du pays, l'immigration, le chômage, le sentiment d'insécurité, le changement de la société. Voilà. Alors ces questions sont... Voilà, maintenant je vais présenter cela un peu point par point. Le tableau général n'étant pas très visible, je vais les prendre un point par point. L'opinion sur l'école. Eh bien, cette opinion sur l'école n'a pas changé, parce que quand on a un point de différence par rapport à l'enquête précédente, c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc on est dans la même situation. La peur dans l'avenir, ah, elle caractérise une grande partie des personnes. 68% des gens ont peur dans l'avenir. Les femmes, plus que les hommes, les trois quarts des femmes, 60% des hommes. Évidemment, les employés, les ouvriers, les agriculteurs, les moins diplômés, on retrouvera souvent ce bloc-là par rapport à ces inquiétudes. Ceux qui se classent à droite et très à droite. Les électeurs Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en 2012. Toutefois, ce sentiment de peur dans l'avenir, il a été plus partagé en 93 ou en 98 et il en recule de 4% depuis l'enquête de 2010. Hein ? Sentiment d'insécurité. Donc, malgré l'instrumentalisation politique dans cette thématique, comme celle de l'immigration fait l'objet dans le débat électoral, et malgré les succès électoraux de l'extrême droite, le sentiment d'insécurité n'est déclaré que par une forte minorité, 48% des personnes interrogées, alors qu'il était largement majoritaire en 1998, ou auparavant encore. Donc on avait déjà noté ce reflux en 2010, il touche presque toutes les catégories sociales, à l'exception des ouvriers, où le sentiment d'insécurité progresse légèrement depuis 2010, donc à contre-courant de ce qu'on observe pour toutes les autres catégories sociales. Et également chez ceux qui se classent à droite, pour lesquels la préoccupation sécuritaire est en net progrès aussi. Donc l'ampleur de la diffusion de ce sentiment est largement fonction du positionnement politique. C'est très intéressant de noter qu'il y a 25% d'accord à gauche, 56% plus du tout à droite, et 91% plus très à droite. Et il y a un partage de l'opinion qui est extrêmement suggestif. Voilà. Alors. Donc les inquiétudes pour l'avenir qui sont exprimées par les personnes interrogées prolongent le plus souvent leurs appréciations négatives qui sont portées sur le présent. Elles ne les amplifient cependant pas puisque pratiquement tous les thèmes abordés connaissent un certain recul ou une stagnation depuis 2010. Alors, il faut nuancer cela en disant qu'il y avait un niveau extrêmement élevé de réponses à ces questions. Que donc les légers tassements qui apparaissent là est moins intéressant à noter que le fait qu'il y a un très très haut niveau d'inquiétude sur ces thèmes. Alors, un thème très consensuel, la dégradation de l'environnement. Bon, nous en parlons de l'aggravation du chômage, l'importante réduction des retraites, tout ça, plus de 90% des gens disent que oui, il risque d'y avoir cela. Risque de voir disparaître les services publics, perte de l'autorité des parents, plus de 80% de oui. Donc un tel degré de consentement, l'attention, porte nécessairement sur l'homogénéité des réponses. Elle se relativise à propos de quatre thèmes. La perte de l'autorité des parents, l'insécurité et la violence, la perte de l'identité nationale et l'augmentation du nombre des étrangers. Ah, bon. Vous aviez quelque chose de plus suggestif, plus coloré, plus agréable. Alors, les thèmes d'inquiétude, donc voilà, je vais les prendre un par un. Je vais laisser le tableau général. La perte de l'autorité des parents, donc elle croît avec l'âge. Avec le positionnement à droite, très à gauche, 62, à gauche, 77, à droite, 87, très à droite, 84. Elle culmine avec le vote Sarkozy 2012, voilà, qui est plus élevé encore, 8% de plus que dans le vote Le Pen. Dans ce vote Sarkozy de 2012, il y a vraiment un concentré des représentations de la droite, hein. encore plus caractéristique, encore plus caricatural, dirons-nous, que peut-être dans le vote Le Pen. L'insécurité et la violence, donc, redoutée encore plus par les femmes, les plus âgées, les employés, les ouvriers et les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, bon, moins par les cadres, moins à gauche, voilà. Et elle est redoutée dans les mêmes proportions par les électeurs Sarkozy et les électeurs Le Pen. La perte de l'identité nationale. Alors là, il y a une grande différence droite-gauche. Hein. C'est à partir de là qu'il y a, c'est à partir de ce clivage politique que les réponses s'ordonnent. Donc, un écart de 50% entre les électeurs Mélenchon et Sarkozy, de 60% avec les électeurs Le Pen et Mélenchon sur le oui. C'est pour ça que quand on dit les extrêmes, vous voyez, il y a parfois extrêmement de variations entre les extrêmes. Au second tour, les électeurs Hollande se distinguent nettement des électeurs Sarkozy. L'augmentation du nombre des étrangers. Là aussi, les différenciations s'opèrent à la fois à partir du niveau de diplôme et du positionnement politique. Voilà. Avec l'âge, la crainte s'accroît également sur le nombre des étrangers. Si 61% des répondants expriment sur ce point leur inquiétude, alors on voit que les jeunes, les étudiants, les lycéens, les cadres, bon, les diplômés de l'enseignement supérieur, les cadres, c'est un peu avec les sans religion, mais davantage encore ceux qui se situent à gauche ou sympathisent avec des partis de gauche répondent par la négative. Il faut relever que la droite elle-même n'est pas objet. Alors sur ce point, voilà, ça justifie un peu la remarque que j'établissais sur le fait qu'il n'y a pas véritablement de confusion totale, en dehors des matières économiques, entre, mais pas sur les questions sociétales, entre l'UDI et l'UMP. Entre en quelque sorte la droite à consonance un peu centriste et l'UMP républicain. Bon. Et il se distingue encore plus évidemment du Front National, c'est l'UDI. Alors maintenant, voilà, les attitudes idéologiques. Il y a une liste de 12 mots qui a été proposée. Hein, 12 mots, alors vous verrez, il y a à la fois des questions économiques, des questions définition par rapport à l'islam, par rapport au socialisme, au communisme, etc., aux grandes idéologies. Alors, sur ces attitudes idéologiques, c'est possible de les comparer, ces 12 mots, avec toutes les enquêtes précédentes, sauf sur le thème de l'Union européenne, qui sature un peu le débat public et qui a été introduit cette année. Avant d'entrer dans les détails d'observation, une remarque s'impose. La progression depuis 2010 des termes renvoyant l'économie de marché, je le disais au début, profit plus 5%, mondialisation pareil, privatisation idem. Mais en même temps, vous voyez, on voit qu'il y a des jugements qui, à certains égards, peuvent paraître paradoxaux. Parce que privatisation plus 5%, nationalisation plus 5%. Capitalisme plus 2 et bourse plus 11. La bourse a beaucoup remonté. Avant de citer par exemple,
pas toujours le cas, mais...
les Français de plus en plus ralliés à l'économie libérale, on devrait rapporter cette observation au contexte de l'enquête de 2010. Donc voilà, hein, crise financière 2008, présidence Sarkozy. Ah mais pourquoi la bédalon est toujours là? Ah, elle est magnifique, oui. En notant que profit revient au niveau de 2001 et même de 1994, privatisation est loin de retrouver la faveur connue entre 1997 et 2001. La bourse en chute en 2010 n'a pas tout à fait retrouvé les appréciations positives minoritaires antérieures. On peut ainsi imaginer qu'il s'agit moins d'une infection idéologique de grande ampleur que d'un certain retour aux équilibres précédant la crise financière. Alors évidemment, à préciser par la suite du travail d'enquête là-dessus. Écologie. Bon, un repli. Alors ça, c'est une adhésion presque unanime et molle, un repli de 3% depuis 2010 pour ce thème, mais qui reçoit 82% de positifs. C'est l'adhésion la plus large parmi tous les mots soumis aux enquêtés. S'écarte de ce quasi-unanimisme les agriculteurs. Les non peu diplômés, à qui ça ne dit pas grand-chose, ceux qui se situent très à droite et les proches du Front National. Mais dans toutes ces catégories, l'écologie, dans toutes ces catégories, même chez les agriculteurs, même chez les proches du FN, l'écologie garde une consonance positive. Union européenne. Alors, une majorité, vous voyez, une majorité avait désigné la responsabilité des politiques conduites par l'Union européenne dans les difficultés rencontrées en France. Une majorité encore apprécie de manière positive l'Union européenne. L'écart entre les deux réponses tient certainement au mot politique. Ce ne serait pas l'entité, l'Europe elle-même, qui serait en cause, mais sa gouvernance. Les ouvriers sont les plus critiques et seules catégories sociales à la juger négative en majorité. C'est aussi le cas des sympathisants du Front de Gauche et du Parti communiste, et plus encore des trois quarts des proches du FN. D'ailleurs, à partir de ce résultat-là, que se construit ce que beaucoup d'autres réponses permettent de démentir, cette proximité supposée des extrêmes. Libéralisme. Qu'entendent exactement les personnes interrogées par libéralisme? Ce terme polysémique est-il compris dans son acception économique, philosophique, politique? Politique au sens du classement politique, pas du contenu, pas du fond, pas de l'histoire. En tout cas, car les principales variations dans les réponses dépendent du positionnement politique, de la proximité partisane du vote. Réduite à un quart au Front de Gauche, à la moitié au PS, la proportion atteint les trois quarts à droite. Et là, UMP comme UDI, exactement pareil. Et redescend à la moitié des sympathisants du Front National. Donc, distinction entre sur ces questions économiques. Hein. Avec les sympathisants du Front National, alors cette formation revendiquait du temps du Père Le Pen une orientation ouvertement libérale. Nationalisation, privatisation. Donc un bilan légèrement positif des avis sur la nationalisation. Avec une faveur plus marquée chez les plus jeunes. Au-delà de 35 ans, les avis positifs et négatifs tendent à s'équilibrer. On relèvera le comportement singulier à certains égards, justement, des plus jeunes dans cette enquête. La réserve des cadres et des professions indépendantes, des moins diplômés, des proches de la droite. À gauche, le Front de Gauche, le Parti communiste sont plus nombreux, trois quarts, que parmi les proches du PS, 61. Plus tiède sur cette question. La dispersion relative et molle autour d'un point moyen, qui n'a guère varié depuis 2010, signale l'inactualité du thème dans le débat politique présent. Privatisation est appréciée négativement par une nette majorité, à l'exception des agriculteurs et des indépendants, c'est-à-dire les artisans, commerçants, chefs d'entreprise. De la droite, mais non des proches du Front National. Il n'y a pas au demeurant, malgré les apparences, de contradiction systématique entre ces deux termes. Quand on les croise, on s'aperçoit qu'il y a en effet toute une partie qui approuve et l'un et l'autre. Et donc, qui... Donc, qui émettent un avis positif sur les privatisations et en même temps sur les nationalisations. Donc, c'est un peu au coup par coup, en fin de compte. Il y a là une appréciation qui n'est pas réductible à une seule dimension. Il y a en effet de la complexité dans ces jugements qui sont moins tranchés qu'ils ne peuvent paraître a priori.
Oui. Pardon, tu peux essayer de ramasser un peu.
Je ramasse. Donc, il me demande de ramasser.
Oui, mais c'est bon,
tout à fait. Voilà, là, je pense que c'est certain, puisqu'on y viendra et de toute façon, tout ça sera publié.
Oui, voilà.
Voilà. Alors, donc tu souhaiterais que je m'oriente vers maintenant quelque chose peut-être de plus politique
et de conclusif.
Ah, de conclusif déjà? Bon, une chute de 13% des jugements positifs sur le socialisme quand même depuis 2010 et l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Et là aussi c'est très intéressant de voir le clivage gauche-droite à l'intérieur de la gauche, les réserves des proches du Front de Gauche et du Parti communiste, 46-52 pour ce dernier, un 46% de positifs, 52 de négatifs, tend à indiquer que c'est moins la notion de socialisme qui est en cause que le parti politique qui en porte le nom. Les gens entendent parti socialiste quand le terme socialisme est posé. Bien. Alors, je vais sauter un petit peu les choses. Islam, tiens, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant à relever, c'est que malgré les attentats de début d'année, malgré ce qui se passe à l'échelle mondiale, les avis positifs sur l'islam, qui sont toujours très minoritaires, un tiers, ils connaissent une progression de 6% depuis 2010. Voilà un résultat qui n'est pas nécessairement attendu. Voilà. Donc il y a de fortes variations qui apparaissent avec l'âge. Fermeture chez les plus âgés, entre les moins de 35 ans, qui donnent un avis positif sur l'islam à moitié, plus de 50%. Et voilà, alors que c'est la moitié chez les plus âgés. Et de très forts écarts également entre droite et gauche. Communisme, tiens, peut-être, non ? Oui. Pourquoi pas ?
La demande vient de la salle, on ne peut pas s'y opposer.
Bon, alors, comme en 2010, l'évocation du communisme provoque beaucoup plus de réponses négatives que positives. Hein ?
Oui.
Ouais. Avec peu de différence selon les critères sociodémographiques. Que ce soit chez les ouvriers, les employés ou les cadres, là, le point qu'il y a noté, chez les ouvriers, le même niveau de rejet. Sinon, selon l'âge, alors là, un point à noter, il y a une meilleure image chez les 25-34 ans que chez les 65-74. 23 d'avis positifs contre 13, c'est quand même beaucoup. C'est une différence qui n'est pas donc de points dont on pourrait, sur lesquels on pourrait passer, mais quand même 10 points d'écart entre les plus jeunes et les plus âgés. Entre ceux qui, peut-être, ont une expérience de l'Union soviétique et ceux qui sont venus après. Selon les critères politiques, une appréciation positive, très assez, se limite à ceux qui se classent très à gauche, aux sympathisants du Front de Gauche, du Parti communiste. Mais il n'y en a qu'un tiers parmi les sympathisants du Parti communiste, dans l'enquête, qui disent que c'est très positif le communisme. Un tiers. Hein ? Je ne me suis pas permis. Et aux électeurs Mélenchon de 2012, ceux qui se placent à gauche se disent proches, ceux qui se disent proches du PS ou des Verts sont une vingtaine de pourcents jugés positifs, à peine plus que les sympathisants du Front National. Quant au rapport à la politique, dont je disais qu'il était très dégradé précédemment, l'intérêt pour la politique lui-même n'a pas fléchi. C'est le jugement porté sur les hommes politiques et sur les partis. Voilà. Donc l'intérêt lui a plutôt cru, vous le voyez sur le trait bleu de cette courbe. Voilà, ça j'ai déjà dit beaucoup sur ça. Et baromètre confiant du Cevipof montre tout à chacune de ces vagues cette défiance croissante vis-à-vis du personnel. Alors, dans ces conditions, que faire pour faire connaître son opinion et les revendications ? Eh bien, on observe dans les différentes possibilités indiquées de la pétition, manifestation, occupation des bâtiments, on s'aperçoit que la manifestation a gagné en quelque sorte, mais elle a gagné aussi à droite. Et là, on peut penser qu'il y a un élément de conjoncture, c'est-à-dire les manifestations contre le mariage gay. Pas plus de confiance pour gouverner le pays à gauche et à droite. La confiance dans la gauche et dans la droite pour gouverner le pays, ni dans la droite ni dans la gauche, a augmenté de 4 points. Et surtout, on la trouve également, même parmi les partisans de la gauche, même parmi ceux qui soutiennent les partis de gouvernement, une majorité répond ni à droite ni à gauche. Voilà. Et dans les propositions politiques qui apparaissent réalisables, tout apparaît réalisable, relancer l'économie par l'augmentation des salaires, réduire le déficit public en taxant plus fortement les riches, réduire le déficit public en limitant le nombre de fonctionnaires, une seule est rejetée, je le disais tout à l'heure, sortir de l'euro et rétablir le franc. Bon, sur la question aux idées du Front National, je l'ai indiqué, elle est évidemment plus marquée chez ceux qui développent ces positions de xéno-autoritarisme. Est-ce que ça
convient de s'en tenir là, peut-être ?
Oui,
voilà, il y a deux, trois autres choses qu'on pourra dire dans le débat si c'est nécessaire.
Tiens, vas-y.
Merci, Henri.